La signification de la transfiguration. Une compilation. La transfiguration de Jésus fut un événement unique de son ministère. Dans l'Évangile selon Matthieu, la transfiguration survint 6 jours après que l'apôtre Pierre eut déclaré « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » et que Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Voici le récit de la transfiguration. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir » avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. Dans les évangiles, Pierre, Jacques et Jean semblent constituer le cercle intime des compagnons les plus proches de Jésus. Ils étaient avec lui dans le jardin de Gethsémané avant son arrestation, et ce sont eux qui furent autorisés à entrer dans la chambre lorsque Jésus ressuscita la fille du chef de la synagogue. Comme Matthieu le rapporte, ils étaient également présents lors de la transfiguration. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans ce lieu isolé, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. » Et en Marc, ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme s'enveloppant de lumière. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence, tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau. Dans son livre « L'Évangile selon Matthieu », R.T. France explique « La transformation visuelle n'est pas tant un changement physique qu'une dimension de gloire ajoutée. C'est le même Jésus, mais désormais il émane de lui une luminosité éclatante, comme le soleil et comme la lumière. » L'idée de contempler la majesté, l'honneur et la gloire de Jésus sera reprise plus tard par l'apôtre Pierre lorsqu'il écrira au sujet de cette expérience. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Durant la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent et parlent avec Jésus. Certains commentateurs suggèrent que la présence de Moïse et d'Élie s'explique par le fait que Moïse était un législateur éminent et qu'Élie occupait une place prépondérante parmi les prophètes. Ainsi, il symbolise l'ensemble de la révélation de l'Ancien Testament accomplie en Jésus. Ni l'évangile de Matthieu ni celui de Marc ne précisent l'objet de leur conversation. Cependant, dans Luc, nous lisons « Il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. » Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ces abris, semblables à ceux construits lors de la fête des tabernacles, auraient probablement été faits de branches et de feuillages pour les protéger du soleil. Pierre parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les enveloppa et une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Alors que Pierre était encore en train de parler, une nuée lumineuse les enveloppa. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu est souvent représentée par une colonne de feu qui est la manifestation de sa gloire. Dieu s'adressait aussi à Moïse depuis la nuée afin que le peuple croie en lui. De la même manière, à la fois par la nuée et par la voix de Dieu évoquant son Fils bien-aimé, le Père posait son sceau d'approbation sur le ministère de Jésus et faisait savoir aux disciples qu'il devait l'écouter. En entendant la voix de Dieu leur parler directement, Pierre, Jacques et Jean furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre. Ils réagirent comme d'autres dans la Bible l'avaient fait lorsqu'ils furent témoins de la puissance de Dieu ou qu'il leur apparut ou qu'ils entendirent sa voix. Les disciples restèrent prosternés jusqu'à ce que Jésus s'approche, les touche et leur dise « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. Alors que l'approbation divine symbolisée par l'apparition de ces 2 figures majeures de l'Ancien Testament et par la transfiguration de Jésus touché à sa fin, Jésus toucha les 3 disciples pour les rassurer. Ils redescendirent ensuite de la montagne, et Jésus leur donna cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Jésus avait choisi Pierre, Jacques et Jean pour assister à cet événement extraordinaire. Mais il ne voulait que personne d'autre ne soit au courant avant sa mort et sa résurrection. Il fallait encore que s'accomplisse sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Sa destination ultime était la croix, où il ferait le sacrifice de sa vie pour le salut de l'humanité. Peter, Amsterdam. Le but de la transfiguration. Sans aucun doute, le but de la transfiguration du Christ, en révélant une partie de sa gloire céleste, était de permettre à son cercle intime de disciples de mieux comprendre qui était réellement Jésus. Le Christ a radicalement changé d'apparence afin que ses disciples puissent le contempler dans sa gloire. Alors qu'ils ne le connaissaient que sous sa forme humaine, ils ont alors pris davantage conscience de la divinité du Christ, bien qu'ils ne puissent pas la saisir pleinement. Cela leur a donné l'assurance dont ils avaient besoin après avoir reçu la terrible nouvelle de sa mort prochaine. De plus, sous sa forme glorifiée, ils ont eu un aperçu et un avant-goût de sa glorification future et de son couronnement comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les disciples n'oublièrent jamais ce qui s'était passé ce jour-là sur la montagne, et c'était certainement l'intention de Jésus. Jean écrivit dans son évangile « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ceux qui furent témoins de la transfiguration rapportèrent cet événement aux autres disciples ainsi qu'à des millions de personnes à travers les siècles. GodQuestion.org. Les multiples facettes de la gloire de Jésus. Le récit de la transfiguration du Christ nous semblerait sans doute étrange s'il ne nous était pas aussi familier. Réfléchissez-y. Jésus monte sur une montagne avec trois amis, rencontre deux prophètes morts depuis longtemps, le tout en brillant dans l'obscurité. Le mot même de transfiguration est un mot que l'on n'utilise jamais sauf pour parler de cette histoire. La présence de Moïse et d'Élie est l'un des aspects les plus fascinants de ce récit. Dans quel autre passage du Nouveau Testament voit-on des héros de l'Ancien Testament apparaître en personne? Mais il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Moïse et Élie ont été convoqués pour assister à un événement aussi glorieux sur la montagne. Après tout, tous deux ont eu des expériences spirituelles mémorables avec Dieu sur la montagne. Celle de Moïse est particulièrement significative, puisqu'elle a abouti à sa propre transfiguration, son visage brillant si intensément qu'on dut le recouvrir d'un voile. Cependant, Jésus ne rayonnait pas seulement comme Moïse brillait, ou comme vous et moi le ferons un jour. Sa gloire était bien plus qu'un simple reflet. C'était la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Et 1500 ans plus tard, sa prière fut à nouveau exaucée lorsqu'il contempla celui qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. La transfiguration n'était donc pas seulement un aperçu de l'avenir, c'était aussi une vision de l'éternité, un regard sur la gloire que le Christ avait déjà auprès du Père avant les origines du monde. C'était un regard derrière le voile de la gloire que Christ possédait de toute éternité, même s'il avait dissimulé sa splendeur divine sous l'humble apparence d'un serviteur. La transfiguration est en quelque sorte un prisme qui nous permet de contempler les multiples facettes de la gloire de Jésus. En elle, nous avons une image de son autorité unique. Elle nous offre un aperçu de la gloire éternelle qu'il avait voilée. Elle nous donne un avant-goût de ce que sera notre vie sur cette ultime montagne, où nous serons tous transfigurés et où sa gloire nous donnera toute la lumière dont nous aurons besoin. Justin Deloé.